Voix Nue. Toute cette semaine, Emmanuel Laurentin rencontre Jacques Revel. Ce soir, paysage par gros temps.
Bonsoir Jacques Revel.
Bonsoir.
Dans les premiers épisodes de cette série à Voix Nue, vous nous avez expliqué comment vous aviez été formé à l'école normale supérieure pendant les années 60, comment vous étiez devenu historien. Puis, vous nous avez dit combien l'histoire française dans la Lignée des Annales se sentait triomphante au début des années 70, alors que vous vous trouviez vous-même à l'école française de Rome, pratiquant une histoire quantitative de stricte obédience. Mais sous cette unité de façade, des fissures pouvaient apparaître. Vous vous en apercevez d'ailleurs très tôt, Jacques Revel, alors même que vous prenez la responsabilité de la revue fondée par Marc Bloch et par Lucien Febvre, Les Annales. Vous prenez cette responsabilité en 1975. Ce régime de croisière et de ferme assurance de la discipline cachait-il, selon vous, ce qu'on a appelé plus tard une crise de l'histoire, Jacques Revel?
Je ne sais pas s'il faut parler de crise, qui est sûr. C'est que dans le courant des années 70, on est passé d'un régime de certitude à un régime d'inquiétude, de plus grande fragilité, et que d'une manière larvée, lente, les ambitions scientifiques de l'époque qui avait immédiatement précédé on fait l'objet d'une révision à la baisse, si on peut dire. Faut revenir d'un mot sur l'historiographie du début des années 70. Le sentiment était qu'on était en train de bâtir pas une histoire définitive, puisqu'aucune histoire n'est définitive, mais qu'on était en train de bâtir du solide et du cumulatif. Et qu'au fond, chacun d'entre nous apportait la contribution à quelque chose dont on ne savait pas encore la forme que cela prendrait, mais dont on était convaincu qu'une forme serait au bout du chemin. D'où ce caractère expansionniste, le territoire sans frontières des historiens et cette conviction à la fois scientifique et idéologique, comme toutes les convictions étaient portées par le succès public que nous avons évoqué, c'est-à-dire le fait que des gens qui n'avaient rien à voir avec le métier trouvaient ce que faisaient les historiens, ou certains historiens savants, à leur goût. C'était le cas de Duby, c'était le cas de Le Goff, de Leroy Ladurie et d'un certain nombre d'autres.
Et puis on proposait à la télévision, à Fernand Braudel, de faire une série télévisée sur la Méditerranée. On proposait à Georges Duby de faire Le Temps des cathédrales. Enfin, d'une certaine façon, même les médias modernes s'intéressaient.
Et les historiens se sentaient capables, avec une certaine efficacité, de répondre à cette demande sans déroger. Ce qui explique, par exemple, que Georges Duby, grand historien s'il en est, et publié un livre sur la théologie du mariage au XIIe siècle, qui n'est pas un sujet si public que cela, sous le titre « Le chevalier, la femme et le prêtre », et en est vendu 100 ou 150 000 exemplaires. Ça fait rêver, après coup. Alors, c'était le moment aussi, je l'ai dit d'un mot hier, de la plus grande reconnaissance des Annales, c'est-à-dire lorsque le monde anglo-saxon et les États-Unis en particulier ont découvert cette proposition qui n'était quand même pas toute neuve. Elle avait 50 ans à la fin des années 70 et se sont mis à produire des choix d'articles, à publier des readers. Bref, on avait le sentiment d'être le centre du monde, de ce monde-là en tout cas.
Il y avait par exemple aussi des inventions formelles qui trouvaient leur place dans la revue Les Annales. Par exemple, l'anthropologie historique était quelque chose de tout nouveau d'une certaine façon et qui a pris de la place dans la deuxième moitié des années 70 et le début des années 80, Jacques Revel.
Alors c'est un bon exemple. L'anthropologie historique est un pavillon qui a couvert des choses très différentes. Il y a des historiens qui ont vraiment pratiquer une recherche de type ethnologique et qui sont entrés dans le questionnaire de l'anthropologie. Nathan Vachtel en est l'exemple parfait, un homme qui a d'abord travaillé sur archives et puis qui ensuite va faire un très long terrain sur l'altiplano bolivien et qui se lance dans l'histoire régressive, c'était une notion qu'il avait empruntée à Marc Bloch, et produit une histoire comme on n'en avait jamais vu.
Oui, il évoque la façon dont les vaincus de la conquête hispanique ont pu vivre donc avec cette défaite et comment ils ont pu raconter cette défaite.
Ça, c'était l'objet du premier livre, La vision des vaincus. Puis la seconde, c'est la manière dont les vaincus des vaincus ont réussi à garder des formes d'existence liminales, marginales, à travers le temps. Enfin, ce qu'il faut en retenir, c'est que Vachtel a fait l'investissement très lourd d'un terrain ethnologique pour construire une histoire différente. Dans d'autres cas, il s'agissait de reprendre des éléments du questionnaire ethnologique ou anthropologique et d'essayer de l'appliquer à des objets historiques. Le Goff, Vidal-Naquet, par exemple, ont tenté, avec succès, je pense, d'appliquer l'analyse structurale à des matériaux mythologiques grecs pour Vidal-Naquet, médiévaux pour Le Goff. Et puis, le terme anthropologie historique, qui a été énormément diffusé entre la fin des années 60 et les années 80, a aussi servi à manifester un souci de nouveauté. Et dans ce cas-là, dans bien des cas, il y a eu un recyclage de la vieille histoire des mentalités, de l'histoire des sentiments, de choses qui n'étaient pas absolument neuves dans ces années-là, mais qui ont été repeintes en neuf dans cette période.
Et puis, il faut dire aussi que c'est une période où, dans certaines grandes enquêtes, et en particulier des grandes enquêtes qui se déroulent sur le territoire national, dans les années 60 et 70, eh bien, anthropologues et historiens travaillent de concert. On peut le voir dans les grandes enquêtes de l'Aubrac, à Minot, dans le Châtillonnais, à Plozévet auparavant, en Bretagne. C'est-à-dire que on crée de grands mouvements collectifs où sciences humaines et parfois sciences dures, d'ailleurs, cohabitent sur un même terrain pendant de longues années. André Burguer, qui a travaillé, qui est un grand historien avec lequel vous avez travaillé aussi, Jacques Revel, André Burguer a participé à l'enquête de Plozévet en même temps qu'il faisait ses propres travaux.
Oui, alors ces grandes enquêtes, elles ont une histoire que Burguer a en partie racontée, qui n'est pas une histoire aussi simple qu'on pourrait le voir rétrospectivement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des confrontations pluridisciplinaires, dont certaines ont marché, d'autres moins bien, comme c'était probablement inévitable. Ce qui est certain, c'est que l'enquête collective a été, dans ces années-là, dès la fin des années 50 et jusqu'au début des années 80, au milieu des années 80, un mode de travail privilégié. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas à leur propre recherche, quelle qu'elle soit, mais qu'ils étaient prêts à investir dans des programmes collectifs que, en particulier, l'école des hautes études en sciences sociales rendait assez facilement possible. Et là, il y a quelques grands épisodes. La recherche de Christiane Clapiche et de David Hurley sur le catastrophe florentin qui a donné naissance à un grand livre, un livre qui reste grand. L'enquête dirigée par Le Goff sur les ordres mendiants au Moyen-Âge. L'enquête conçue, animée par François Furet et Jacques Ozouf sur l'alphabétisation des Français entre 16e et 19e siècle. Il y en a eu beaucoup d'autres avec Roger Chartier et Dominique Julia. Nous avons dû mener l'une des dernières sur les universités à l'époque moderne, entre 16e et 18e siècle. C'était la fin d'une époque.
Alors justement, vous nous décrivez une histoire qui semble un peu triomphante dans ces années 70, mais vous allez, en prenant la direction des annales, vous apercevoir qu'il y a quelques difficultés justement dans cette unité de façade. Il y a peut-être des divisions qui pointent et on a parfois parlé même d'une histoire en miettes. Alors c'est peut-être exagéré, mais en disant que tout compte fait, sous cette grande unité de l'école des annales, il y avait des dissensions qui pouvaient poindre, Jacques Revel.
Il s'agit moins de dissensions que d'inquiétudes ou de préoccupations sur une croissance qui, pour avoir été extrêmement rapide, spectaculaire, a posé des problèmes. Ce sont des problèmes de croissance accélérée, qui sont d'ailleurs pas propres aux annales ni à l'historiographie française. Au moment où on m'a confié les annales, en 75, à chaque numéro, faisait 6 numéros par an à l'époque, il y avait, pour reprendre la trilogie de Le Goff et Nora, d'enfer de l'histoire, de nouveaux problèmes, de nouvelles démarches, de nouveaux objets. Et l'inventivité de ces années a été très remarquable. Le problème qui s'est posé, ça se posait particulièrement à quelqu'un qui devait à la fois participer au choix des articles que l'on publiait, c'était le travail collectif du comité, d'un tout petit comité à l'époque, nous étions 5, autant je m'en souviens. Mais aussi, c'était la responsabilité de quelqu'un qui avait à faire les sommaires. Donc, une expérience assez banale d'éditeur scientifique. Car on pouvait assez vite se poser la question, si tout est important dans ce qui est publié, si tout ce qu'on nous propose est important, qu'est-ce qui est important à la fin? Comment hiérarchiser les intérêts à un moment où la recherche se démultipliait et où arrivaient, encore une fois, en permanence, de nouvelles propositions, différents types d'histoires au pluriel qui nous étaient proposées, parfois très proches de nous? À quoi s'ajoutait une seconde question qu'on pourrait désigner sous la formule des rentements décroissants? J'en prends un exemple qui est devenu connu, la démographie historique, sous sa forme, sa première forme devenue classique dans ces années-là, c'est-à-dire les monographies paroissiales, a produit un très grand nombre de résultats.
Donc il s'agissait d'aller éplucher les registres de baptême, les registres paroissiaux.
Pour découvrir, en gros, les quatre grandes variables de la démographie, en particulier la démographie ancienne, celle sur laquelle se focalisait surtout la recherche, c'est-à-dire la natalité, la mortalité, la nuptialité et surtout la fécondité des populations. Bon, des centaines, probablement des milliers de monographies ont été produites. Elles ont apporté des nuances, puisque tout n'était pas égal en tout lieu. Mais en même temps, il y a un moment où, en gros, on peut savoir ce qu'on va trouver et on peut se demander s'il est nécessaire
Une millunième.
Oui, de prouver à 97% ce qu'on connaît à 96%. Et on pourrait en dire autant de d'autres formes d'histoire quantitative, de l'histoire des prix et d'autres histoires qui étaient florissantes dans ces années-là. Bref, le problème posé était celui de savoir si on ne devenait pas répétitif. Et puis, un dernier problème qui se posait, et qui est la conséquence logique des deux précédents, qui était de savoir comment ces multiples histoires que l'on produisait, pouvaient être articulées entre elles. Alors, c'est ça qu'on a dénoncé de manière un peu polémique sous le slogan « L'histoire en miettes ». Je pense que c'est une formule qui n'a pas grand sens. Elle a au moins le mérite de traduire l'inquiétude qui s'est exprimée dans ces années. Il se trouve que ce sont les années où j'étais responsable de la revue. Et donc, ça m'a amené à essayer de réfléchir sur ces questions.
Et vous allez y réfléchir de façon un peu sévère. Il faut dire aussi que dans ces années 70, on a, l'historien ne fait pas de l'histoire en bocal. Il est évidemment dans la société dans laquelle il vit. Et on a une crise de ce qu'on pourrait appeler les grands paradigmes historiques, et en particulier de cette vision de l'avenir que pouvait avoir vos prédécesseurs, et qu'effectivement, c'est plus tard Reinhard Koselleck, qui est un grand historien, qui l'a évoqué, on avait un horizon d'attente, on disait ce qu'on attendait de l'avenir. Et puis peut-être à ce moment-là, eh bien, il y a une crise justement de cette attente dans l'avenir, une crise de ce que un autre historien avec lequel vous avez travaillé, François Hartog, appelait le régime d'historicité en l'occurrence.
Oui, alors c'est un phénomène qui reste largement à comprendre. Nous avons, certains d'entre nous, proposé des hypothèses, des tentatives d'explication. Il faut certainement aller plus loin. Probablement, la distance, maintenant plus de 40 ans, par rapport à cette époque, pourra y contribuer. Mais enfin, les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous tous, et les historiens aussi, sont entrés dans une crise réelle à partir des années 73-75, et à ce jour, elles n'en sont pas sorties. Une crise qu'on ne sait pas vraiment décrire, et on le voit bien, si l'on prête aujourd'hui attention aux analyses politiques, et aucune ne nous propose un schéma de compréhension qui nous permettrait d'avancer. On a des éléments sectoriels. Il reste que ce que nos sociétés sont devenues reste en partie mystérieux. Elles font en particulier l'objet d'un diagnostic pessimiste. Nos sociétés sont plus fragiles, moins sûres d'elles-mêmes, que ne le pensaient les générations qui nous ont précédés. Elles sont plus opaques à elles-mêmes aussi, et elles font moins confiance en l'avenir. Alors, l'un des premiers qui l'a manifesté, c'était Jean-François Lyotard, dans un livre qui n'était pas spécialement destiné aux historiens, mais que les historiens ont lu, « La condition postmoderne » en 1979. Et puis, trois ou quatre ans plus tard, un historien de métier, cette fois, Christophe Pomian, a publié dans Le Débat un très remarquable article, qui reste remarquable aujourd'hui, qui s'appelait « La crise de l'avenir », et qui, en gros, posait frontalement la question. Alors, qu'est-ce que ça disait? Ben que, en gros, l'avenir qui était le lieu d'investissement de nos attentes, ce que Koselleck appelle un horizon d'attente, et à partir de quoi, non seulement nous comprenions notre présent, mais nous réorganisions notre passé, cet avenir, nous n'étions plus capables de nous projeter en lui.
Alors, vous avez vanté le travail, et à raison, de Christophe Pomian et de cet article dans Le Débat, mais vous êtes aussi l'auteur, dans ces années 70, à la fin des années 70, alors que vous dirigez la revue Les Annales, d'un article qui fait grand bruit, en 1979, dans lequel vous dites en particulier que cette constellation du savoir se défait sous nos yeux, dites-vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous pronostiquez que le champ de la recherche en sciences sociales est en train de se fragmenter, est en train de se déliter, dites-vous. Ça a dû faire un peu de bruit dans le Landerneau, tout de même.
Oui, alors c'est un texte que j'avais présenté deux ans plus tôt dans un colloque en l'honneur de Fernand Braudel et en présence de Fernand Braudel aux États-Unis, dont j'ai proposé une version amplifiée, j'espère mieux argumentée, dans un numéro qui célébrait le cinquantenaire des Annales en 1979. Donc, effectivement, certains, non pas Fernand Braudel qui a été tolérant, amusé en tout cas, Mais certains ont trouvé que le moment était malvenu pour ce type d'analyse. À vrai dire, ce que je disais n'avait rien d'iconoclaste. Ça revenait simplement à dire que, d'une part, la formule des annales, c'est-à-dire l'histoire et les sciences sociales, avait recouvert des paradigmes différents entre les années, la fin des années 20 et la fin des années 70. Et au fond, il n'y a rien là que de très normal, puisque entre-temps, beaucoup de choses avaient changé, y compris l'institutionnalisation des sciences sociales, qui n'existait pas en 1929, mais qui était devenue massive dans les années 60-70. Donc les conditions de rapport, les conditions de l'interdisciplinarité n'étaient pas les mêmes. Et puis, je disais d'autre part, cette transformation, elle est à nouveau à l'œuvre aujourd'hui. On sortait d'un moment de certitude, celle du structuralisme, qui n'avait pas été vraiment remplacé. D'ailleurs, les anglo-saxons disent post-structuraliste, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui dit quand même qu'on est passé à autre chose. Alors, moi, j'ai été sensible, parce que c'était une part de mon métier comme responsable de la revue, à ce phénomène de recomposition, entamé lentement, parfois résistiblement, mais dont il était évident qu'il était à l'œuvre. Et j'ai essayé, avec les moyens du bord, et aussi avec quelques amis, de pousser en ce sens, en disant « rien ne nous oblige, mais il est urgent de penser notre condition d'historien ou de spécialiste des sciences sociales ».
C'est ce moment un peu délicat de la fin des années 70 et du début des années 80, en l'occurrence, dans une discipline qui était accoutumée à être devenue une discipline reine des sciences humaines en France auparavant. Est-ce que c'est une particularité française ou est-ce que c'est toute l'Europe, voire le monde, qui est touchée par ce qu'on pourrait appeler cette crise ou ce moment un peu délicat des sciences sociales et en particulier de l'histoire ?
Non, c'est un phénomène qui n'est pas proprement français et qui a même donné lieu à des propositions, des formulations beaucoup plus radicales dans certaines historiographies étrangères que ça n'est le cas en France. Donc c'est pas quelque chose qui est propre à la France. Pourquoi est-ce que ça a été particulièrement sensible en France ? Bah, certainement parce que c'est le pays où un régime de certitude scientifique avait été plus fort qu'ailleurs. C'est-à-dire les années structuralistes, moment structuraliste était un moment profondément scientiste. Après tout, ce que Lévi-Strauss se proposait, c'est de faire de l'anthropologie une science positive, comme Durkheim avait, 60 ans plus tôt, pensé faire de la sociologie une science positive. Sur le modèle des sciences tout court.
Les sciences, ce qu'on appelle les sciences dures.
Oui, les sciences dures. Bref, on est passé en quelques années d'un moment de très grande assurance scientifique à un moment d'instabilité qui a eu des inconvénients, en ce sens qu'il a obligé à certaines révisions, qui a aussi eu des avantages parce qu'il nous a obligés à réfléchir davantage sur nos pratiques. C'est ce qu'on a appelé, ou ce que j'ai appelé en tout cas, un moment réflexif.
Et puis, c'était aussi une histoire qui se trouvait plongée dans un bain polémique très fort. La question de la mémoire, et en particulier de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, était en train d'émerger dans ces années 70. L'arrivée aussi de ce qu'on a appelé au départ les révisionnistes, qui sont devenus ensuite les négationnistes, a obligé les historiens à réfléchir à la façon dont on travaillait sur ce type de passé. Et Pierre Vidal-Naquet, par exemple, a travaillé dans Les Assassins de la mémoire sur cette question-là. J'imagine que vous étiez enjoint par la société, par la presse, par peut-être aussi les pouvoirs publics, Jacques Revel, à réfléchir à cette posture de l'historien dans une société qui faisait de la mémoire une référence très forte qui permettait de penser le passé.
C'est-à-dire que il y a là deux problèmes qui sont différents. Ce qu'a entrepris Vidal-Naquet en particulier, quelques autres, mais il a été le modèle de ce type de travail, c'est une réflexion critique, on pourrait même dire philologique, sur des dossiers qui étaient des dossiers brûlants politiquement, mais dans lesquels la manière de faire de l'histoire était en jeu. C'est ça le problème du révisionnisme. Donc Vidal-Naquet travaillait moins sur la mémoire que sur des productions pseudo-historiques qui étaient celles des ce qu'on appelait les révisionnistes. Alors c'est un terme pas très bien choisi. Pourquoi ? Parce que l'histoire, elle est révisionniste par définition. Sinon, on pourrait s'arrêter et considérer que tout est fini. Dire chaque génération, et peut-être même un rythme plus élevé que celui-là, essaye de repenser des choses différemment de celles qui l'ont précédé. Donc, négationniste me paraît plus juste que révisionniste dans le lexique que peuvent utiliser les historiens. Puis il y a une deuxième chose, qui est la vague mémorielle extrêmement puissante qui, à la fin des années 70 et surtout dans les années 80, s'est amplifiée et qui n'a guère cessé depuis. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de la société. C'est un phénomène que les historiens ont thématisé, qu'ils ont commencé à étudier. Et le meilleur exemple, ce sont bien sûr les lieux de mémoire qu'a dirigé Pierre Nora. Mais c'est un phénomène, je dirais, qui n'a pas été inventé par les historiens.
Mais auquel ils ont dû réfléchir et réagir.
Il est né sous leurs yeux, et certains d'entre eux ont essayé de le penser, d'en rendre compte et de montrer comment ce phénomène mémoriel pouvait s'articuler à une histoire et pouvait lui-même devenir un objet d'investigation historique. Donc, je séparerai les deux choses. De manière, l'histoire de la mémoire, qui est devenue une petite industrie depuis 40 ans et qui a produit beaucoup de choses et de choses intéressantes, ça a été une démarche ajoutée à celle qui existait déjà et qui, bien entendu, a obligé à engager des recompositions.
Merci Jacques Revel, on se retrouvera demain pour évoquer justement cette multiplicité d'approches de l'histoire et du passé à laquelle vous avez dû faire face, cette multiplicité, parce que vous avez dirigé ensuite l'école des hautes études en sciences sociales. On parlera justement d'une institution qui vous est chère et dans laquelle nous sommes pour vous interroger. Merci Jacques Revel et à demain.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Emmanuel Laurentin avec Jacques Revel. À voix nue, attaché d'émission Claire Signon, prise de son Raymond Albouy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.